Bonsoir et merci de suivre Radio Capi pour cette émission Tribune de la Presse. Deux sujets sont au centre de notre débat. Il s'agit de la célébration en RDC de la Journée nationale de l'enseignement le 30 avril, suivie de la fête du travail le 1er mai. Comme deuxième sujet, nous parlerons de la gestion des missions diplomatiques en RDC. Trois confrères sont avec nous dans cette émission. Il s'agit de Joël Kadindanga. Il est éditeur du journal Impact News, un hebdomadaire qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Joël Kadindanga.
Bonsoir confrères, bonsoir chers auditeurs.
Nous sommes également avec Joachim Diana, éditeur du journal La Colombe, un quotidien qui paraît aussi à Kinshasa. Bonsoir Joachim Diana.
Bonsoir confrères.
Et nous sommes aussi avec Thierry Mukelekele, journaliste à la radio-télévision Jedi de Kambo Vokatonga. Bonsoir Thierry Mukelekele.
Bonsoir aux auditeurs et bonsoir à tous ceux-là qui sont avec nous.
Bienvenue à tous dans cette émission. La célébration de la Journée nationale de l'enseignement, suivie de la fête du travail et la gestion des missions diplomatiques en RDC, figure parmi les sujets largement commentés par les journaux parus cette semaine à Kinshasa. Écoutons cette revue de presse que nous propose Alain Hirong.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par la commémoration de la fête du travail en RDC. Des milliers de travailleurs de la capitale congolaise se sont retrouvés hier jeudi 1er mai autour du ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale Modeste Bahati Lukwebo à la place du cinquantenaire en face du Palais du Peuple annonce la tempête des tropiques. L'événement a été marqué non seulement par ce grand rassemblement au cours duquel les travailleurs ont remis un cahier des charges au gouvernement, mais aussi par l'installation depuis mercredi dernier des juges assesseurs et greffiers qui animeront les tribunaux du travail à Kinshasa et à Lubumbashi. Le potentiel révèle pour sa part que la commémoration de cette année a été placée sous le thème « Construire l'avenir avec le travail décent ». Modeste Bahati a de ce fait réitéré tout l'intérêt que le gouvernement attache à un travail décent qui contribue, soutient-il, à la croissance économique et au développement du pays. Parlons maintenant de la gestion des missions diplomatiques de la RDC. L'Observateur cite le sénateur Nelson Bia Aîné, auteur de la question orale, qui après avoir peint un tableau sombre de la diplomatie congolaise, a voulu à travers sa question chercher à savoir comment le ministère de tutelle met en œuvre la politique du chef de l'État en matière de diplomatie. Sur le même sujet, l'Avenir note que les sénateurs pour la plupart ont critiqué l'état actuel de la gestion des missions diplomatiques en RDC. Il faut rapidement réhabiliter nos missions diplomatiques, notamment par la nomination des ambassadeurs à la place des chargés d'affaires et à des postes clés à relever le sénateur Raymond Ramazani Baya. Un autre sujet qui défraie la chronique à Kinshasa, c'est la visite de John Kerry, le secrétaire d'État américain, effectué à partir du 29 avril au 5 mai 2014 à une tournée africaine annonce la prospérité. Il se rendra successivement à Addis Abeba, à Kinshasa et à Luanda. Dans un communiqué publié à cet effet, il est mentionné qu'à l'étape de Kinshasa, John Kerry rencontrera notamment le président Kabila pour voir dans quelle mesure la démocratisation et la stabilité de la RDC peuvent être davantage encouragées, tout en s'assurant que les élections à venir seront crédibles et organisées en temps opportun dans le respect de la constitution actuelle. Dans un autre registre, revenons sur l'affaire d'expulsion des ressortissants de RDC de Brazzaville. Les autorités de la République du Congo poursuivent l'expulsion des ressortissants de la RDC résidant sur leur territoire, informe le potentiel. Après l'étape de Brazzaville, l'opération Mbata ya Mokolo se déroule actuellement à Pointe-Noire. Selon la source, Brazzaville a entamé depuis le 24 avril, l'expulsion des Congolais de Kinshasa, considérés comme la cible principale de cette opération de refoulement d'étrangers vivant sur son territoire. Le Phare ajoute que plusieurs expulsés se disent victimes de traitements inhumains à Brazzaville, en violation du droit international humanitaire.
Merci Alain Rongo, Joël Kadindanga. Je rappelle que vous êtes éditeur du journal Impact News, un hebdomadaire qui paraît à Kinshasa. L'actualité cette semaine a été aussi marquée par la grève des armateurs congolais. Ces derniers ont décidé depuis le mardi 29 avril dernier la levée de leur mouvement de grève entamé dans les ports fluviaux et lacustres de la RDC. Ils réclamaient entre autres la suppression de la multiplicité de leurs taxes imposées par le pouvoir en place, dont les taxes d'embarcation. Quel commentaire vous pouvez faire par rapport à cette information?
Bon, vous allez constater que tous les tableaux décrits par notre confrère Alain Hirung démontrent la démission de l'État congolais à tout point de vue, et notamment dans le secteur des armateurs où il y a une multiplicité de taxes, et tout cela pour décourager les Congolais à effectuer, parce que toutes les taxes que l'on exige aux armateurs ont une répercussion sur le prix des ventes des denrées alimentaires, des produits vivriers, ainsi de suite. Et ce qui fait que l'État, de plus en plus, est en train de se retirer de ses propres responsabilités pour davantage acculer la population. Et cette population, se sentant acculée, ne trouve mieux qu'ailleurs. Et aujourd'hui, toutes les nations du monde ont décidé de nous refouler dans des conditions beaucoup plus inhumaines, beaucoup plus dégradantes.
Là, vous faites allusion aux expulsés de Brazzaville.
Aux expulsés de Brazzaville, et vous comprendrez que là même, il y a un complot qui se trame contre la RDC. La première fois, nous avons été attaqués dans le plan de balkanisation de la RDC par le Rwanda. Aujourd'hui, on a compris que les Congolais le sentent. Et dans ces expulsions ici, je sens une main noire, parce que vous sentez qu'il s'agisse ici au Congo ou au Congo Brazzaville, les plus hautes autorités ne parlent pas. Et qu'est-ce que les autorités congolaises de Brazzaville reprochent à nos compatriotes? Donc il n'y a rien qu'on leur reproche. Et non seulement qu'ils n'ont pas de documents, mais tout ce temps ici, nous avons toujours vécu en paix. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui se trame. Et là, c'est comme si, dans ces expulsions, il y a des infiltrations qui cachent mal des prochaines attaques, des prochaines déstabilisations de la RDC, à part parce que je ne sais pas comment est-ce qu'on va identifier que tous ceux qui sont expulsés sont congolais ou pas, parce que depuis 1984, merci, nous n'avons pas de 87, si je ne m'abuse pas, nous n'avons pas de carte d'identité. Et ceux qui étaient en dehors du Congo n'avaient pas de carte d'électeur. Et c'est là où je me dis, n'est-ce pas ce qui nous est arrivé de l'Est risque de nous venir de l'Ouest? C'est là que les autorités devraient ouvrir l'œil et le bon pour voir qu'est-ce qui se passe bientôt. À partir du 13 mai, ça va être l'Angola. Et chez nous, c'est le silence cimetière. C'est comme si on n'est plus gouverné dans ce pays.
Joachim Diane, je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Colombe, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Joël Kadenzanga était déjà en train de le dire. L'actualité cette semaine a été aussi marquée par la poursuite de la vague des expulsions des Congolais de la RDC de Brazzaville. Un petit commentaire par rapport à cette information.
Oui, les expulsions continuent. Et en arrivant à ce studio, j'ai vu encore 5 bus que le gouvernement met à la disposition des expulsés pour les amener au lieu d'identification. Et bon, c'est une opération qui continue, mais je n'aime pas la mémoire courte. C'est pour dire que ce n'est pas une première que Brazzaville expulse les Congolais. Ce n'est pas une première non plus qu'on expulse en Angola, qu'on expulse en Zambie.
Mais dans quelles conditions?
Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Je pense que en 92, je justifie rien, en 92, il y a eu 200 morts des Congolais expulsés et qui se précipitaient pour monter dans l'embarcation ont été noyés. Leurs tombes sont encore à Brazzaville. 200 morts. Donc c'est pour dire que ce que nous connaissons aujourd'hui a un ancêtre beaucoup plus cruel que ce que nous vivons aujourd'hui. Cela n'explique rien, mais nous condamnons tout ce qui arrive. Mais j'aimerais dire aux compatriotes congolais, la première des choses, que Brazzaville, c'est un pays étranger. Que même si il n'y a que 2 secondes pour traverser, arriver à Brazzaville, qu'on se mette en tête que c'est un pays étranger et qu'on doit traiter comme... Et là, ça doit aussi venir de l'autorité politique. Ça ne sert à rien de dire, ah non, nous sommes les deux peuples, nous sommes un seul peuple, et le fleuve, ce n'est pas un enclos comme chantait le musicien, mais c'est plutôt un boulevard. Non. Nous sommes deux pays différents. J'aimerais même aujourd'hui que les autorités congolaises, les autorités de Kinshasa apprennent aux Congolais que Brazzaville est aussi loin que Bruxelles. Alors, cela veut dire quoi? Qu'on renforce les conditions de traversée. Je serais même beaucoup plus radical qu'on puisse même pour un certain temps fermer ce beach. C'est question de savoir. Je sais que Brazzaville peut vivre sans Kinshasa, Kinshasa peut vivre sans Brazzaville, alors qu'on se débrouille autrement, plutôt que de sacrifier des gens. On a vu des gens avec le ventre repassé au fer chaud, et on a vu les gens qui ont tout perdu, des enfants qui sont dépaysés parce qu'ils viennent trouver un autre système scolaire qui est presque à la fin de l'année scolaire. Donc je pense que ce sont des histoires qu'on ne peut pas continuer à tolérer, mais qu'on instaure les visas, qu'on instaure pour pour aller à Brazzaville, il faut avoir un passeport, et qu'on n'y aille pas pour un petit rien, pour aller vendre les braises, par exemple. Vous avez vu la qualité des expulsés. Le samedi, juste après le début de l'opération Batamokolo, il y a eu en bus 600 Congolais de Brazzaville qui ont traversé. C'était qui? Des étudiants. Voilà des gens qui ont étudié dans notre système universitaire, comme des Congolais. On ne leur impose pas des conditions d'étrangers.
Merci.
Mais voilà qu'ils rentrent. Mais nous, qui rentrent? Ce sont des chailleurs, des vendeurs de braises et tout ça. Et ils disent qu'ils nous rendent service. Non, on peut fermer, on peut s'en passer.
Merci beaucoup Thierry Mukelekele. Je rappelle que vous êtes journaliste à la radio-télévision Jedi Dedekambo au Katanga. Quels sont les sujets qui ont dominé l'actualité cette semaine dans votre province, le Katanga, précisément à Kambove?
Bien, à Kambove, généralement nous sommes dans un secteur minier. C'est aussi la désolation parce que le mouvement des va-et-vient des populations qu'on est en train de renvoyer dans une carrière, qui vont chercher une autre carrière. Ce qui veut dire, d'abord, aujourd'hui, la cité est vraiment concentrée des populations venant de partout en République démocratique du Congo, qui étaient à la quête du mieux-être dans plus ou moins 7 à 8 carrières de minerais. Alors, cette situation crée une crise approfondie dans la cité de Chamitumba, à Kambove, et pratiquement ces gens-là, on vient les retrouver encore à Lubumbashi, parce que Lubumbashi vers Kirilabalanda, vous ressortez, disons Kambove vers Kirilabalanda, vous ressortez à Lubumbashi vers Lupoto. Lupoto aussi, c'est une carrière où on a dégagé encore les populations congolaises. Plus de 20 000 Congolais ont été chassés des carrières de Lupoto, c'est-à-dire une partie s'est déversée encore à Kambove et une autre partie est rentrée dans la ville de Lubumbashi. Et au moment où nous sommes en communication avec vous, nous sommes venus suivre justement le dossier de Lupoto et présentement, il y a des milliers de jeunes gens, des parents, devant le bâtiment du 30 juin, c'est-à-dire le bureau de l'Assemblée provinciale. Jusque-là, ils attendaient l'arrivée du président de l'Assemblée provinciale, qui n'est toujours pas arrivé. La police les a rangés d'un seul côté. Donc, ça fait 15 à 30 minutes que j'ai laissé ces groupes de familles en train d'attendre une solution au niveau de l'Assemblée provinciale. En ce qui concerne Kambove, l'administrateur du territoire, il est impuissant, parce que la machine est née de Kinshasa, c'est Kinshasa qui impose le système, donc pour l'administrateur du territoire, il n'a pas une solution à donner à cette population qui est venue dans sa juridiction. Mais je voulais un peu parler des expulsés de Braza, parce que nous aurons dans un proche avenir les mêmes effets avec l'Angola, du côté Colombie, Kassamay, Dilolo et un peu partout là-bas, et la Zambie aussi aujourd'hui qui a renforcé les mesures vis-à-vis des Congolais qui viennent par le Katanga pour aller vers l'Afrique du Sud ou même en Zambie. Au moment où nous vous parlons, il y a des mamans qui allaient s'approvisionner en farine de maïs en Zambie, qui ne sont jamais retournées parce qu'elles se sont retrouvées arrêtées dans des prisons de la Zambie.
Merci Thierry.
Où elles sont soumises à des travaux forcés. Ça veut dire qu'elles font le champ peut-être 5 mois ou 6 mois et elles seront libérées. Et tout ça, le gouvernement ne tient pas cas à ça. Mais il suffit de voir seulement un sujet zambien qui a des problèmes au Katanga, à Lubumbashi, et même à Kambove, à Kolwezi, vous verrez le mouvement des Zambiens venir plaider la cause de leurs compatriotes.
Merci Thierry. Nous abordons directement notre premier thème de ce soir. La RDC a célébré mercredi 30 avril dernier la journée nationale de l'enseignement. À l'occasion, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC ont organisé un sit-in devant le cabinet du ministre de l'EPSP à Kinshasa. Une façon pour ces structures d'interpeller les autorités congolaises par rapport aux revendications des enseignants qui, jusqu'ici, ne trouvent pas de solution. Autre objectif, contraindre le gouvernement congolais les structures qui gèrent le système éducatif, notamment à régulariser la situation des 300 000 enseignants impayés depuis plusieurs mois, assurer aux écoles les frais de fonctionnement conséquents et corriger les mécanismes de paie des enseignants par le système bancaire. Les manifestants ont été par la suite dispersés par la police déployée sur place. Écoutez à ce sujet le porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC, Jean Bosco Pounin, au micro de Belinda Bosuma.
Il y a 300 000 enseignants qui travaillent sans être payés. Ça fait des années et des années, nous avons observé le gouvernement, il n'agit pas. Mais il y a également les problèmes de salaire. Vous savez que depuis que nous avons eu un petit réajustement des salaires en 2007, jusqu'à aujourd'hui, l'enseignant est abandonné à son triste sort. Nous avons pensé que trop c'est trop. Il est question pour nous de pouvoir commencer ces actions syndicales aujourd'hui pour interpeller tous les partenaires qui gèrent le système éducatif afin qu'on donne des réponses aux problèmes de l'enseignement. Le ministère de l'EPSP vient d'envoyer les directeurs provinciaux, mais la question que nous posons aujourd'hui ne peut pas trouver de réponse au niveau du ministre de l'EPSP qui n'est qu'un maillon du gouvernement. Les enseignants, ce sont des gens qui n'ont pas de salaire, qui n'ont pas de maison, et ils n'ont pas de soins de santé acceptables. Et quand un enseignant décède, eh bien, son nom est élagué, sa famille reste vraiment dans la misère la plus noire. Il y a également l'interpellation au niveau du Parlement. Comment voulez-vous que, jusqu'à aujourd'hui, on nous a confinés dans un budget quinquennal, un budget qui ne change pas. Aujourd'hui, là, vraiment, nous ne pouvons plus supporter.
Cette célébration de la Journée nationale de l'enseignement a été directement suivie hier jeudi, le 1er mai, de la fête du travail. Construire l'avenir avec un travail décent, c'est le thème de cette journée cette année. À Kinshasa, un rassemblement des travailleurs s'est tenu à la place du cinquantenaire sur le boulevard Triomphal. Mais est-il possible aux travailleurs congolais de construire l'avenir avec un travail décent quand on sait que non seulement le salaire qu'ils touchent ne lui permet pas de nouer les deux bouts du mois, mais aussi la mise en application du SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti, pose sérieusement problème. Écoutons la réponse de Guy Kolela, président de la Confédération syndicale du Congo. Il est au micro de Innocent Olenga.
Non, c'est un défi pour nous les syndicalistes. Et nous l'avons rappelé l'année passée, nous avons écrit, et cette année encore, nous disons que sur le plan économique, le comportement il était positif. Il y a 8% de croissance, mais nous voulons retrouver ces 8% dans le social du travailleur.
Mais est-ce que les privés ne s'entêtent pas parce que le gouvernement lui-même paraît être un mauvais exemple? Il y a beaucoup de sociétés, beaucoup d'entreprises publiques dont les agents accusent beaucoup de mois d'arriérés, voire des années. Est-ce que ce n'est pas un modèle qui n'est pas du tout modèle pour ces privés qui s'entêtent à payer les SMIC?
Non, les privés ne peuvent pas s'entêter pour évoquer l'État. Donc, ils doivent s'incliner, ils doivent obtempérer, ils doivent faire en sorte que leur comportement se conforme à la législation. Sinon, ils sont en dehors de la législation.
Bonjour, Kadendanga. Je rappelle que vous êtes éditeur du journal Impact News, un journal qui paraît à Kinshasa. Vous avez suivi ces reportages, la célébration le 30 avril dernier, le mercredi donc, de la Journée nationale de l'enseignement et hier, jeudi, le 1er mai, de la fête du travail. Un petit commentaire d'abord par rapport à ces deux événements qui se suivent. Que représentent ces journées pour vous?
En tout cas, des journées, j'ai beaucoup félicité les syndicalistes de l'enseignement parce qu'ils ont compris qu'ils n'avaient pas à faire des fêtes, qu'ils n'avaient pas à se lancer dans du folklore que le gouvernement a voulu organiser à travers le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Prévention sociale en organisant des conférences sans aucune signification. Lorsqu'on vous dit que, par exemple, le thème, c'est construire un avenir avec un travail décent, quel travail décent on en a? Qu'il s'agisse de l'enseignement. Mais avant d'aborder ces deux questions liées à l'enseignement et au travail, laissez-moi juste placer un mot par rapport à la mauvaise caricature plantée par mon confrère Diana, lorsqu'il dit que nos confrères sont partis à Brazza comme des chailleurs. Écoutez, non, ça c'est une très mauvaise caricature que l'on présente.
Mais revenons Congolais. Quand même au sujet
d'aujourd'hui. Non, on revient au sujet d'aujourd'hui. Je vous dis que les Congolais de Kinshasa qui sont allés à Brazzaville, il y en a qui y ont contribué à la construction du Congo Brazzaville qui a été détruit par les guerres récurrentes provoquées par Sassou Nguesso qui veut s'éterniser au pouvoir. Et vous allez sentir dans quelques instants, et d'ailleurs, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, vous sentez déjà que, déjà au Congo Brazzaville, la main d'œuvre congolaise de Kinshasa est en train de manquer. Alors, on ne peut pas présenter ces décors. Je ferme cette parenthèse-là pour dire qu'aujourd'hui, on peut parler du travail ou de l'enseignement. L'État congolais a travaillé dans une sorte de démission à tous les niveaux. Vous allez comprendre, très chers confrères, Un salaire, le salaire égale quoi? Les économistes et supra-économistes de formation, le salaire égale consommation plus épargne. Qui travaille, même dans le journal de mon confrère, qui travaille avec une capacité d'avoir une consommation totale et il a l'épargne. Mais aujourd'hui, le gouvernement congolais travaille dans une sorte de démission et ne sont à l'aise que les personnels politiques. Par personnel politique, je dis le ministre, les députés, même les ministres provinciaux et des gens qui étaient hier. Vous avez déjà vu dans un pays où quand quelqu'un est juste nommé ministre, la première chose qu'il fait, c'est quoi? La première chose, c'est acheter une maison. S'il n'en avait pas, acheter une parcelle, acheter une voiture. La deuxième chose qu'il fait, c'est faire voyager toute sa famille à l'étranger. La troisième chose qu'il fait maintenant, c'est s'engager dans le commerce, dans les affaires, pour provoquer, n'est-ce pas, les conflits d'intérêts avec tous ceux qui étaient dans ce secteur-là, qui étaient dans les secteurs, créer les conflits d'intérêts, de telle sorte qu'abandonne pour lui laisser. Voilà ce dont on peut parler, ceux qui travaillent. Mais en dehors de ce travail, par rapport aux enseignants, depuis Kengo jusqu'à aujourd'hui, ce sont les générations de Kengo qui nous ont introduits dans ce qu'on appelle frais d'intervention ponctuels. Et depuis ce temps-là, l'État ne prend plus en charge les enseignants. Et si l'État dit aujourd'hui qu'il prend en charge les enseignants, c'est avec un salaire qui ne permet pas à l'enseignant de faire face, n'est-ce pas, à ses responsabilités. Et vous allez comprendre, ici on nous parle même de 300 000 enseignants qui ne sont pas payés, mais ils continuent à travailler. Et tout cela, ce sont les conséquences de ce qu'on a dit, bancarisation et ainsi de suite. Mais une bancarisation avec un salaire de 70 000 francs, qu'est-ce qu'on peut faire avec un salaire de 70? Alors, les journées de 30 avril Merci. Et du 1er mai devraient être consacrées aux journées de méditation, des larmes aux yeux, des pleurs, où les enseignants devaient sortir avec leurs enfants pour, en tout cas, s'étaler sur la rue. Les chômeurs, ça ne doit même pas au Congo être appelé la journée du travail, ça devait être appelé la journée du chômeur, parce que chez nous, l'emploi, le chômage, c'est à 95%. Pourquoi doit-on continuer à fêter le travail au moment où à RDC, on ne sait pas coder le travail.
Joël Kadendanga, je reviens à vous tout à l'heure, Joachim Diana. Joël Kadendanga, parlant des journées du 1er mai et du 30 avril, estime qu'on devrait, ces journées devraient se dérouler dans la méditation. Il relève même la responsabilité du pouvoir en place par rapport au travail décent, par rapport aux journées de l'enseignement. Un petit commentaire.
Vous savez, vous constaterez que moi, je ne viens pas dans ce studio pour verser dans la polémique, mais je viens respecter les auditeurs pour analyser la situation telle que vous la posez. En ce qui concerne la journée de l'enseignement, c'est vrai que aujourd'hui, mon avis est que les journées devraient être consacrées à l'enseignement lui-même. Conditions des enseignants, infrastructures, oui, mais d'abord à l'enseignement lui-même. J'ai toujours dit que je serais même plus d'accord qu'un enfant étudie sous un arbre et qu'il ait un bon enseignement que dans un beau bâtiment où l'enseignement est, qui est donné est au rabais et ce qui ressemble à un tombeau peint. Donc, et on ne réfléchit pas assez sur la qualité même. Qu'est-ce que nous visons à travers notre enseignement? C'est ça le vrai problème. Vous allez vous rendre compte, tous les pays du monde qui se sont développés sont les pays qui ont organisé leur enseignement en fonction des objectifs à atteindre. Mais chez nous, l'enseignement, c'est un petit ligablo, une occasion de donner du pain à certains gens, enseignants ou quoi. Mais ces enseignants-là, je me souviens un jour, Mzé avait posé la question au professeur, mais à quoi ça sert votre université? Et les gens ont cru comme s'ils avaient un jury. Mais en fait, vous enseignez, l'État doit vous payer, ça fera un bon salaire, oui. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous savez que ce que nous avons aussi, le fait que les gens détournent, le fait que les recettes, il y a ce que le gouvernement lui-même a parlé, le coulage des recettes, tout ça c'est parce que les gens sont mal formés. Si on forme les gens, donc on risque d'être dans un cercle vicieux. Avec des gens mal formés, on aura toujours moins d'argent et on aura toujours le même problème. On doit réformer la société. Travail décent pour un salaire décent, c'est ça. Voilà le thème équilibré. Vous ne devez pas seulement exiger un salaire décent, mais vous devez produire un travail décent. Parce que ce travail décent qui va produire l'argent, et cet argent-là vous amène. Vraiment, c'est un peu, je ne veux pas imposer jusque la légende de la poule et de l'œuf qui a existé avant, c'est la poule ou bien c'est l'œuf, mais Il faut que les gens comprennent qu'aujourd'hui, les syndicalistes travaillent plus sur la qualité de l'enseignement. Cette qualité de l'enseignement va produire des hommes valables, ces hommes valables vont produire le pays et le pays va avoir le moyen pour que l'on puisse. Donc, c'est pour dire que je ne peux pas laisser passer une caricature qui semble dépeindre la caricature. J'ai dit, j'ai comparé la qualité des expulsés, ceux-là n'étaient pas expulsés, ils sont partis.
Revenons à notre sujet d'aujourd'hui.
J'ai fini pratiquement, je n'avais plus, j'ai terminé ma seconde pour répondre, c'est un droit de réponse pour dire que j'ai comparé la qualité des Congolais, des Brazzas qui sont partis par rapport aux nôtres qui sont venus. Être chahir, c'est aussi participer à l'économie. Je n'ai pas dû dire.
Merci Joachim Diana. Thierry Moukele, quelle analyse vous faites du niveau de l'enseignement aujourd'hui et du travail en RDC? Thierry Moukele, quel est? Nous avons l'impression qu'il y a un petit problème au niveau de la communication. Le temps que la réalisation puisse retrouver notre confrère Thierry Moukele-Kele de Cambové. Joël Kadindanga, aujourd'hui, en fait, que peut-on faire pour, en fait, assurer un travail décent aux travailleurs congolais? Vous avez essayé de relever des failles, mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez aussi proposer des solutions dans l'avenir?
Donc, avant de proposer les solutions, je précise que je ne viens pas non plus dans ce studio pour me lancer dans les polémiques.
Mais nous revenons vraiment au sujet.
Juste dire ceci, ce n'est pas aux syndicalistes, en tout cas, de prendre en charge la qualité de l'enseignement. Il revient à tout gouvernement dans le pays. Vous comprendrez, par exemple, dans des pays comme arabes, de l'enfance, on inculte à l'enfant déjà la mentalité, on lui présente son ennemi, c'est qui? Par exemple, c'est un juif, c'est un américain, c'est sur les démons. Mais chez nous, quelle est la politique éducationnelle que nous avons? Est-ce tout simplement qu'on ait des ministres pour être dans l'enseignement? Mais cela doit être défini, ça doit constituer une identité éducationnelle à partir de laquelle on fonde l'avenir. L'aîné l'a dit tantôt, Diana l'a dit, que si on ne tient pas compte de la qualité de l'enseignement, nous aurons toujours des mauvais dirigeants.
Joël Kadindanga, nous revenons à vous tout à l'heure. La réalisation me signale que nous avons Thierry Moukele-Kele en ligne, notre confrère de Cambové. Thierry Moukele-Kele, vous m'entendez maintenant?
Oui, je vous capte 5 sur 5.
Ok, la question que nous vous posions, quelle analyse vous faites du niveau de l'enseignement aujourd'hui et du travail en RDC?
Bien, pratiquement les plaintes, c'est partout parce que d'abord pour nous à Cambové, nous n'avons pas plus de 5 établissements. Et laissez-moi vous dire que Cambové, c'est le deuxième territoire sur le plan de superficie, après un territoire, je crois, au Bas-Congo. Nous n'avons que 5 établissements. Un établissement privé, un établissement qui a été réhabilité par la Vision Mondiale, la Gécamine et 2 autres privés. Ça dit que depuis que les gouvernements se sont succédés, malgré toutes les richesses de la cité de Cambové, sur le plan de l'enseignement, à la tombée de la Gécamine, ça a été remorqué. C'est-à-dire aujourd'hui, en dehors de ce que l'administrateur de territoire est en train de faire pour tirer ça et là et garder les élèves à l'école, avec les 3 mois d'arriérés à la société Gécamine, ça dit que c'est la misère dans la cité de Chamitoumba. Et dans les villages environnants, la cité de Chamitoumba dans le territoire de Cambové, c'est la désolation. Il n'y a que le lycée catholique Lubusha, communément appelé Lucha, où les activités tournent bien parce que là c'est un réseau pratiquement catholique. Et je peux aussi ajouter sur ce que mes confrères ont dit. La journée ici, nous étions hier à Lubumbashi, où on a voulu célébrer cette journée. Là où on a place, on parle de la place de la gare, du côté de la SNCC. C'est la désolation. Personne n'a répondu d'abord à cet appel. Aujourd'hui, quand vous allez dans les écoles, les élèves ne sont pas allés à l'école parce qu'on leur poursuit déjà le numéral du mois d'avril. Ça dit que la situation va de plus en plus dans la perte de vitesse et nous décrions un peu l'irresponsabilité du dirigeant par rapport à ce secteur. C'est comme ça que vous trouverez beaucoup de nos enfants vont carrément dans les carrières pour aller ramasser de pierre. Et cette année, elle ne sera pas déclarée blanche parce que c'est de la politique, mais vu le nombre d'élèves ou le nombre d'enfants qui ne sont pas allés à l'école, le gouvernement doit être conscient d'avoir raté le pari en ce qui concerne l'enseignement cette année. Et l'enseignant lui-même, il est incapable même de s'octroyer un vélo. Ça dit qu'aujourd'hui, l'enseignant du territoire de Kambove va à l'école, c'est peut-être pour avoir de quoi à mettre sur la dent et nourrir sa famille. Parce que lui-même est incapable de scolariser son propre enfant. Donc c'est devenu un peu trop compliqué et que les sociétés en guillemets qui prêtent dans le territoire de Kambove ne font rien en ce qui concerne leurs recommandations sur le plan social ou même sur le plan de soutien à certaines écoles. Rien du tout. Alors, c'est ce qui est un peu aberrant.
Nous n'avons plus beaucoup de temps pour terminer le premier sujet. Joël Kadindanga, en un mot, que peut-on faire en fait pour assurer un travail décent aux travailleurs congolais? En un mot.
En un mot, il faudrait assainir le climat des affaires, non pas par rapport aux étrangers, aux Indo-Pakistanais ou autres, ou aux autres étrangers, mais par rapport aux Congolais eux-mêmes. Il faudrait aménager des conditions de telle sorte que les Congolais puissent se sentir chez eux. Lorsqu'un Congolais peut ouvrir sa petite boutique, qui n'est pas la rubambelle de taxes sur lui, pour l'inviter à fermer, mais il faudrait qu'on mette les conditions pour qu'on crée l'emploi. Ça, c'est de un. Que le gouvernement aussi envisage les mécanismes d'emploi et les mécanismes et que les Congolais aussi apprennent à travailler. L'aîné là, tantôt, l'a dit. Il faut qu'il y ait un travail décent pour un salaire décent, que le Congolais rentre au travail. Et le véritable travail aujourd'hui, c'est notre terre que Dieu nous a offerte. Si on peut rentrer au champ, si chaque ministre peut avoir 50 hectares, si chaque journaliste peut avoir 10 hectares, et que chacun rentre au champ, et nous allons créer des conditions de nous prendre en charge à partir du champ et des autres travaux. Il ne faudrait pas que le travail soit considéré toujours par la plume, par le bic et par le papier.
Merci. Joachim Dien, en quelques secondes, que vous proposez pour assurer un travail décent aux travailleurs congolais?
Oui, tout travail, c'est d'abord, je l'ai dit, il faut commencer par réformer l'enseignement. Faire de l'enseignement la priorité des priorités. C'est vraiment la priorité, parce que c'est cette priorité qui va faire que nous ayons des cadres compétents, ce cadre qui va produire un travail récent. Donc, faire de l'enseignement, je dis dans beaucoup de pays du monde, dont la Suède par exemple, c'est l'enseignement qui est la base de tout. On ne peut rien obtenir ça. Si on en fait aujourd'hui, je peux proposer, au lieu simplement de réfectionner des écoles, mais comprennent un peu les enseignants parce qu'il s'agit de là pour leur exiger la qualité du travail, qu'on les mette à l'épreuve avec pas seulement le salaire peut être que ça. Est-ce que c'est tellement difficile de construire, par exemple à Kinshasa, de camps pour les enseignants? On peut construire de belles maisons en bois, en quoi, décent. Les enseignants n'ont pas le souci de local, il est là-bas, il peut même être humilié, il a de l'électricité, il peut travailler à tout moment. Ça, un peu comme des militaires, mais ils ne sont pas aussi nombreux que les militaires, ça pourra améliorer un peu la qualité de l'enseignement.
Merci, c'était avec vous que nous terminons directement ce premier thème de notre émission et nous passons à notre deuxième thème. La question de la gestion des missions diplomatiques en RDC a été débattue vendredi dernier au Sénat. C'est suite à une question orale du sénateur Nelson Bia-Ené, adressée au vice-ministre des Affaires étrangères. Ce sénateur estime qu'il y a dysfonctionnement dans les missions diplomatiques congolaises. Pour lui, cela se traduit notamment par la mauvaise gestion du personnel et des finances, l'acquisition d'une deuxième nationalité par certains ambassadeurs, également la création de chancelleries parallèles et le manque de rapatriement du personnel arrivé fin mission. Mimi Ngumba Mulongo pour ce reportage.
Il y a un problème réel dans la gestion des ambassades. En tout cas, cette réalité a été reconnue par le Sénat ce vendredi. Dans sa réponse, le vice-ministre a d'abord tenu à mentionner que cette situation existe depuis plus de deux décennies, soit depuis les années 90. Cependant, a-t-il affirmé, le gouvernement a initié un programme d'assainissement des missions diplomatiques.
Que le gouvernement a institué depuis 2013 un comité interministériel, marquant ainsi sa volonté d'améliorer les conditions de travail de nos diplomates, de restaurer l'image de marque de notre pays.
À en croire Célestin Tunda, les réalisations de cette équipe sont plutôt visibles.
Par exemple, le salaire d'un ambassadeur dans la zone A passe de 4 000 $ à 6 500 $. Le paiement des loyers de certaines chancelleries, l'amorce de versement des recettes des chancelleries au compte du Trésor. Le rapatriement sélectif est prioritaire de plusieurs dizaines de diplomates et de leurs familles.
D'autres préoccupations en rapport avec ces sujets ont été soulevées par les sénateurs pendant le débat.
Thierry Moukele, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio-télévision Jedidia du Cambove au Katanga. Vous venez de suivre ce reportage de Mimi Ngomba. Quelle lecture vous faites de la situation de la gestion des missions diplomatiques de la RDC?
Bien, merci. Avant de parler d'abord de ces missions diplomatiques, moi j'aurais pensé que le gouvernement devait avoir une bonne politique vis-à-vis des Congolais de l'étranger. Parce que pour réussir une mission diplomatique, il eût fallu que les Congolais qui vivent à l'étranger adhèrent à la politique. Or, quand vous voyez le comportement de ce gouvernement depuis son arrivée, le gouvernement n'a aucune politique extérieure. On s'est juste focalisé sur ce qui est la guerre à l'est du pays et les histoires de Ouganda et tout et tout. Et ça fait déjà 2 ans passés. Moi, je pense que s'il y a un gouvernement qui arrive bientôt dans cette histoire de cohésion nationale, je pense que ce gouvernement doit s'atteler d'abord à reconquérir l'espace de la diaspora, à éviter de faire croire à nos frères qui vivent en dehors du Congo qu'ils appartiennent à un autre monde, et casser cette histoire-là des Congolais de l'opposition et des Congolais de la majorité. Une fois que nos frères de la diaspora adhèrent à la politique du pays, je pense que cette fois-là, la personne qui sera nommée sera dans une aisance de travail. Le parallélisme des missions diplomatiques ou des ambassadeurs, laissez-moi vous donner un exemple que j'ai vécu. Mon grand frère vit en Afrique du Sud, ça fera bientôt 24 ans. Il est la personne la mieux connectée pour faire voyager les gens à partir de l'Afrique du Sud, aussi dans l'Europe et dans le reste de l'Europe. Il n'appartient pas à la mission diplomatique, parce que c'est un Congolais zaïrois à l'époque qui a eu beaucoup de temps et qui a eu la naturalisation sud-africaine. Il est en train d'aider les autres Congolais à voyager dans le monde. Mais jamais le pouvoir au niveau des ambassades en Afrique du Sud ou même des services consulaires aide les Congolais. Et aujourd'hui en Afrique du Sud, nous avons des milliers de soi-disant réfugiés congolais et qui vivent avec des documents dûment signés par les organisations qui entretiennent les réfugiés en Afrique du Sud. Vous voyez déjà, ça pose problème. Le Congolais de l'extérieur n'a même pas confiance à son propre ambassadeur ou à un chargé de mission. Moi, je pense que c'est par là que nous pouvons faire une entrée, réconcilier-nous avec la diaspora, et je pense que pour le reste, ça peut aller.
Merci beaucoup, Joachim Diane. Je veux vraiment vous demander des réponses brèves, puisque nous sommes vraiment à la fin de l'émission. Que peut-on faire pour que la diplomatie congolaise reprenne ses lettres de noblesse?
Bon, ben, vous savez, ce qui est en train d'être fait maintenant, c'est une réhabilitation de la main de nos chancelleries, qui étaient devenues des officines politiques des services de sécurité. On avait comme diplomate que les gens qui allaient pour faire la sécurité extérieure, je ne sais même pas, c'était contre qui. C'est maintenant qu'on commence à avoir des vrais diplomates et on doit améliorer leurs conditions de vie telles que le vice-ministre l'a dit tout à l'heure. Donc, avec, j'aimerais un peu dire ce que le confrère vient de dire en ce qui concerne la diaspora. Vous ne pouvez pas demander à cette diaspora aujourd'hui de se réconcilier avec le gouvernement dès le moment où parfois cette diaspora aime être en désaccord avec le gouvernement pour pouvoir avoir droit au séjour. Vous allez voir, vous êtes dans la diaspora, vous dites vous êtes en odeur de sainteté, mais demain on vous renvoie chez vous. Parce que cette diaspora a besoin de crise avec le gouvernement, comme ça, ça leur permet d'avoir le séjour à l'extérieur. Donc la réconciliation là, il ne faut pas la chercher au niveau de la diaspora. C'est le jour où la diaspora estimera qu'elle peut vivre autrement, c'est-à-dire les gens sortent de chez nous pour aller à l'extérieur, par des voies normales. Lorsque quelqu'un sort à Boaki, comme on dit, il arrive là-bas, il vit clandestin, il ne peut pas aller à l'ambassade parce qu'il n'a aucun document. Donc il ne sera jamais un bon annoté de fait. Si on le voit à l'ambassade, on dira il doit rentrer chez lui.
Joël Kandindanga, que pouvez-vous proposer pour avoir une diplomatie agissante pour la RDC à l'intérieur et à l'extérieur du pays?
Pour avoir une diplomatie agissante, le socle, c'est la formation. Nous n'avons pas une définition bien claire de la diplomatie congolaise, qu'il s'agisse de l'intérieur ou de l'extérieur. Et le personnel que nous avons, le personnel diplomatique que nous avons, ce sont des cousins, des neveux de certains ministres, ainsi de suite. On n'a pas tenu compte de la formation de ces diplomates qui, pour la plupart des cas, ont été envoyés pour assurer la sécurité du pouvoir à l'extérieur du pays. Et si l'on tient à avoir une diplomatie, une politique étrangère bien définie, il faudrait qu'on forme déjà que ceux qui sortent des relations internationales, de nos écoles de diplomatie, soient orientés pour faire le travail pour lequel ils ont été envoyés à l'université, que de prendre des cousins, des chauffeurs, des mécaniciens pour les envoyer comme missionnaires diplomatiques pour ne pas réaliser. Le préalable aurait été donc la formation des diplomates avec des objectifs bien précis. Il ne faudrait pas que les diplomates soient envoyés pour faire la chasse aux combattants, aux ennemis du pouvoir. La qualité de la diplomatie est donc requise suivant les objectifs d'une mission diplomatique qui sont de représenter, protéger les intérêts et chercher l'information et vendre son pays. Mais vous allez constater chez nous que ce n'est pas le cas. Et cela relève de la responsabilité d'un gouvernement de définir sa politique étrangère. Cette politique étrangère qui doit être enseignée. Et notre pays, nous sommes pratiquement un grand pays au cœur de l'Afrique, au cœur du monde. Il faudrait que nos diplomates comprennent ces rôles-là. Mais lorsque nous envoyons nos neveux, nos cousins, qui n'ont aucune notion de la diplomatie, qui n'ont aucune notion de la politique étrangère, voilà pourquoi on peut nous chasser comme des petits cochons sans que nos diplomates ne réagissent, sans que nos diplomates ne sachent même pas qu'il y a une note verbal qu'il faut faire au gouvernement dans le pays, dans le pays duquel vous avez été accrédité pour protester contre cette histoire-là. Et vous allez voir que nos diplomates sont surpris. Même le plus proche du Congo-Brazzaville a été surpris de l'expulsion de nos compatriotes sans qu'au départ il n'ait été informé. Donc vous comprenez, c'est le manque de formation.
Thierry Moukelekel, nous terminons cette émission avec vous. Nous allons vous demander de conclure en une minute exactement.
Merci bien. Moi je pense que nous sollicitons auprès du gouvernement provincial parce que dans la répartition entre les pouvoirs centraux et les pouvoirs provinciaux, il y a ce qui est du droit des pouvoirs provinciaux pour exécuter en ce qui concerne l'enseignement et en ce qui concerne la culture artisanale. Donc pour nous ici au Katanga, principalement à Kamboje, nous voudrions insister auprès du gouvernement provincial pour voir cet aspect de choses des différentes carrières de minéraux. Parce que toutes ces populations qui sont rentrées dans les cités vont créer de l'insécurité et nous aurons des problèmes dans un proche avenir. En ce qui concerne la diplomatie, l'exemple du Congo-Brazza doit nous réveiller. Nous, ici au Katanga, parce que nous avons la Zambie, nous avons l'Angola, et surtout l'Angola qui peut nous poser des sérieux problèmes quand il nous coupe en approvisionnement en carburant. C'est comme ça que nous pensons relever le niveau de vie du Katangais, pratiquement des habitants de Kambo, et tous ceux-là qui ont choisi le territoire de Kambo comme leur point de départ pour le développement en République démocratique du Congo.
Je vous remercie et c'est avec vous que nous mettons fin à cette émission. Alain Ngo était à la technique, Alain Rung était à la réalisation. Samuel Kachok vous l'a présenté sous la supervision de Pele Kipelamundo. La rediffusion de cette émission, c'est demain matin à 4h15 heure de Kinshasa. Merci et bon week-end sur Radio Okapi.